Bienvenue dans Quality Time, le podcast de Zenity. Cet épisode sera dédié au secteur des jeux d'argent et plus particulièrement au rôle crucial des testeurs QA dans ce secteur. Les jeux d'argent en ligne sont une industrie en constante croissance et en évolution rapide, ce qui rend la qualité et la sécurité des plateformes de jeux primordiales pour les opérateurs et les utilisateurs. Les testeurs QA jouent un rôle crucial dans l'assurance qualité de ces plateformes, en effectuant des tests rigoureux pour s'assurer que les jeux fonctionnent correctement, que les données sont protégées et que les règlements sont respectés pour que les joueurs puissent jouir d'une expérience agréable. Dans cet épisode, nous allons explorer les différents aspects des tests dans le secteur des jeux d'argent, les défis spécifiques auxquels les testeurs QA sont confrontés, les outils et les technologies disponibles, ainsi que les meilleures pratiques pour garantir une qualité de jeu optimale. Nous sommes ravis de vous présenter cet épisode et de vous donner un aperçu de l'importance des tests de qualité pour les jeux d'argent en ligne. Alors, installez-vous confortablement, l'esprit serein, car oui, vous avez tiré les numéros gagnants. C'est Quality Time. Voilà, donc comme je le disais, nous sommes en compagnie de trois experts de chez Zenity pour ne pas changer. À ma gauche, Sao-san. Bonjour Sao-san.
Bonjour.
Ça va bien ?
Super bien, et toi ?
Ça va bien, merci de me retourner la question. Sao-san, elle est testeuse. Elle a 3 années d'expérience dans l'informatique, dont 2 passées dans le secteur des jeux d'argent. Et ça fait 1 an qu'elle nous a rejoint, une petite année chez Zenity.
Ça passe vite.
Ça passe vite quand ouais. On s'amuse. Et actuellement, elle est en mission pour un grand groupe de luxe dont on taira le nom. À sa gauche, Adama. Ça va bien, Adama ?
Oui, ça va, et toi ?
Ça va bien aussi. Adama, elle est testeuse full stack. Ça fait 4 ans qu'elle travaille dans l'informatique, dont 2 passées dans le secteur des jeux d'argent. Et ça fait également 1 an qu'elle a rejoint Zenity dans la même promotion que Sao-san. C'est correct ?
Oui, c'est ça.
Parfait. Et enfin, pour sa 2e participation officieuse et première participation officielle, Feriel est parmi nous. Bonjour Feriel.
Bonjour Karim.
Ça va bien ?
Ça va.
Feriel, ça fait 4 ans qu'elle travaille dans l'informatique. 3 ans passés dans les jeux d'argent, dans un grand groupe de loterie français, dont on taira le nom également. 4 ans qu'elle est chez Zenity. Donc elle a commencé sa carrière dans l'informatique chez Zenity.
Tout à fait.
Et aujourd'hui, elle est en compagnie d'Adama dans un grand groupe bancaire, dans une mission qui se passe très très bien.
Oui.
Voilà, donc je vous ai réunis toutes les 3 aujourd'hui pour parler d'un secteur que vous connaissez, les secteurs des jeux d'argent. On sait que c'est un secteur dans lequel le test est très important. Je ne pense pas que vous me contredirez.
Oui, c'est très important.
Alors pourquoi c'est important particulièrement ? Pourquoi, selon vous ? Comment est-ce que vous qualifieriez cette importance ?
Bah, du coup, parce que on joue des fois des sommes d'argent très importantes. Du coup, tu risques de perdre ton argent ou de gagner plus. Tu mets en enjeu des sommes qui peuvent être de 2 euros à 1000 euros. Il y a des joueurs qui risquent tout. Du coup, s'il y a un problème sur les calculs, sur le gain, le joueur va être furieux. S'il est gagnant, il va perdre sa somme de 1000 euros, par exemple. Et c'est trop risqué pour la boîte aussi.
C'est ça. S'il y a une personne qui gagne 0 normalement et qui peut retirer 1000 euros,
oui.
L'entreprise ne sera pas contente.
C'est ça.
Ça vous est déjà arrivé ça en mission ?
Non.
Ce genre de cas de figure, non ?
Non, pas du tout.
Bah, c'est que vous faites bien votre métier finalement.
Il y a, je pense, une autre raison pour laquelle c'est peut-être plus important que sur d'autres sites, c'est que quand les gens parient de l'argent, ils sont beaucoup plus susceptibles d'être mécontents pour un oui, pour un non en fait. Même s'ils ne perdent pas une grosse somme d'argent, même s'ils perdent quelques euros ou qu'ils perdent rien, mais que l'expérience n'a pas été bonne, ils vont être beaucoup plus susceptibles de se plaindre, d'envoyer un message, que s'ils sont juste sur un site sur lequel ils ne parient rien, juste ils lisent des infos ou quoi.
Et c'est vrai.
Exactement. Le client est peut-être un peu plus aussi exigeant.
Ouais. Qui dit jeu d'argent dit forcément transaction bancaire, donc c'est un secteur très délicat. Et l'argent c'est sacré. Donc en perdre, ça fait beaucoup plus mal. Je pense que c'est très important d'être très précis dans ce domaine.
Ouais.
Et les clients peuvent remettre en question le site qui n'est pas clair, qui n'est pas trop précis. C'est à cause de l'application qu'on a perdu de l'argent parce qu'on n'a pas très bien compris.
Mmh. Ouais, l'expérience utilisateur, elle est super importante. Hein. Pour vous, là, imaginons qu'on vous débarque aujourd'hui avec toute l'expérience que vous avez sur un projet de qualification des jeux d'argent d'une boîte. Sur quoi vous allez vous focaliser directement ?
Alors, je dirais déjà l'ergonomie, histoire de voir si l'utilisabilité de la plateforme elle est quand même assez adaptée à tout public. Mmh. Et aussi la perception, pour voir si c'est pas trop compliqué de comprendre d'un point de vue fonctionnel le jeu en soi. Mmh.
Donc, sans rentrer dans le technique, en fait, tu vas vraiment t'attarder sur l'expérience utilisateur.
Exactement, oui.
Si c'est compréhensible, déjà, et voilà, agréable à jouer.
C'est ça.
D'accord, intéressant.
Bah, je peux rajouter à ça, si on part dans des tests un peu plus techniques, c'est les calculs des gains, tout ce qui est moyen de paiement, parce que c'est un enjeu aussi. Les gens rentrent leurs coordonnées bancaires, il faut que ça soit sécurisé.
Oui.
Il faut que s'il rentre sa carte bancaire pour payer 5 €, 5 € soit pris et non pas plus.
Exactement.
Ça, comment on le teste en mission ?
On teste les moyens de paiement avec des cartes fictives et on regarde si ça passe avec une date erronée, par exemple. On a une carte fictive avec une date d'expiration et si on ne met pas la bonne date, on voit que si ça passe ou pas.
Ouais.
Ouais, et pour pousser un peu plus loin, il existe des logiciels internes spécialisés sur tout ce qui est contact, pas forcément de jeux en ligne, mais adaptés pour les jeux en ligne. Et du coup, ne pas juste se limiter à ce que renvoie la plateforme. Donc nous, en tant que QA, on va pousser un peu plus loin pour vérifier si effectivement c'est la somme qui doit être prélevée, qui a été prélevée.
Moi, je me souviens, parce que j'ai aussi travaillé dans ce secteur, hein, qu'une des grandes difficultés qu'on avait pour tester, par exemple, les demandes de gains, c'était de créer son propre événement, de faire sa prise de jeu qui était gagnante, suite à ça, de créer le bon tirage pour que notre prise de jeu soit effectivement gagnante, récupérer son gain, après tester toutes les catégories de gains.
Exactement.
Enfin, ouais. C'était directement, enfin, on se rend compte de la combinatoire qui est énorme si on doit tester tous les cas de figure. Vous, comment vous aviez géré ça à l'époque ? Parce que c'est quand même une quantité de temps astronomique.
Non, mais on avait aussi le même principe de différents gains, différentes combinaisons pour chaque gain. Et ça a été un très, très long sujet. Donc nous, on n'allait pas voir les moyens de paiement du client final, mais on regardait tout ce qui se passait dans le back-end, c'est-à-dire est-ce que c'était bien les bons gains qui s'affichaient sur le front. Et dans les différents back-ends, les différents back-ends avaient tous la même combinaison pour le même gain. Et certains, donc hors équipe de QA, voulaient qu'on teste absolument toutes les combinaisons de tous les gains. On s'y opposait, mais on n'avait pas trop notre mot à dire, donc on a proposé de tester plutôt tous les symboles qui font toutes les combinaisons. C'était aussi un énorme travail, mais en fait, après la question se pose de est-ce que je l'ai fait, comment je les simule, est-ce que je les moque, est-ce que je les... Donc en fait, on a fait intervenir carrément les devs pour nous faire pour nous simuler des tirages qui pouvaient d'un coup montrer tous les symboles. Et du coup, voilà, en fait, on vérifiait plutôt symbole par symbole au lieu de combinaison par combinaison. La proba que ça se passe mal était très, très, très faible. Mais comme on le disait, les conséquences auraient été t'as gagné 2 millions, t'as gagné 0. Donc,
ouais. Et c'est quand même ce qu'on disait, en fait. C'est des tests qui sont tellement critiques. Parce que imaginons que ça ne fonctionne pas et qu'on a une anomalie qui nous revient de prod sur ces cas de figure-là.
C'est un procès direct.
C'est très, très grave, voilà. Donc, je peux comprendre que le métier, derrière, il se demande est-ce qu'on vérifie ISO-prod, tous ces cas. Ouais. Et d'ailleurs, on perd l'ISO-prod, je pense, dans le contexte où les développeurs se lancent des bâches. Ouais. Donc, ouais, je peux comprendre que c'est compliqué, mais peut-être que le temps, il faut l'allouer à ce genre de test. Et ça, c'est dans la politique de test, du coup, que ça doit être précisé. Savoir si vraiment, pour nous, un test, enfin, la couverture, elle est bonne quand on a vérifié ces 4 tests, ou alors on n'a pas besoin de le faire parce qu'on estime que ça prend trop de temps par rapport aux bénéfices. Vous, c'était quelque chose qui était explicite dans vos missions
En fait, quand je suis arrivée, c'était pas testé par nous comme ça. Et à un moment, il me semble qu'il y a eu... Il n'y a pas forcément eu un incident, mais il y a eu cette idée qui est arrivée chez le client. Et du coup, c'est devenu une fixette. Et il y a eu toute cette recherche de comment faire, est-ce qu'on teste tout, etc. Et quand je suis partie, c'était pas encore dans la stratégie de test parce qu'ils n'avaient pas encore trouvé la solution pour pas passer une semaine sur chaque projet, quoi.
Et tu peux nous en parler un peu plus de l'incident, justement?
Mais en fait, ça nous est pas remonté directement. Ils nous ont pas dit, il y a cet incident. Ils nous ont dit, dans des moments où le réseau n'est pas bon, donc le réseau vraiment informatique, quand le cache est surchargé sur un device ancien, on a eu un symbole qui s'est mal affiché. Et du coup, ça a remis en cause en fait tout le système. Initialement, je crois que c'était un problème de cache, en fait. Les combinaisons précédentes s'affichaient. Et du coup, voilà, un incident qui n'avait rien provoqué de grave, mais en fait, ça leur a fait remettre en question tout le système, ce qui était en fait légitime, je pense.
Vous avez eu des anomalies en prod comme ça, des trucs un peu critiques?
J'ai eu à travailler sur l'outil principal de jeu en ligne d'un grand groupe de Paris Epic. Et du coup, dans cet outil, on n'arrivait plus à valider les paris. Et c'était pendant une phase de recette, par contre, c'était pas en prod. Et donc, il se trouvait que c'était un bug assez complexe parce qu'il fallait faire intervenir plusieurs équipes transverses. Et quand même, c'était pendant une phase de reset assez importante, vu que c'était la mise en prod de l'application qui avait été refaite de A à Z. Et du coup, ça a quand même été bloquante et ça a retardé la date de MEP. Mmh.
Moi, je viens de me rappeler d'un problème en prod. Par contre, c'est un client qui nous a remonté qu'il avait un ticket gagnant, il le voyait, mais quand il le scannait, ça s'affichait comme quoi c'était un ticket invalide. Mmh. Et on essayait de reproduire ça, on n'arrivait pas. Notre côté. Du coup, c'était un problème aléatoire. Et ça a créé beaucoup de problèmes. Et à un moment, on a réussi à l'avoir côté recette. Et c'est là que les développeurs ont pu lancer leur analyse pour pouvoir le régler. Mais c'est arrivé à un ou deux clients, je pense. Mmh. Et ça n'était jamais arrivé avant. Et c'est tombé sur ces deux parieurs.
Au cours de vos missions, vous avez certainement ça en tête en permanence, de documenter un peu tout ce que vous mettez en place. Comment vous y prenez si vous le faites? Moi, je sais ce que j'aimais bien faire, c'est sur Confluence,
oui,
créer des pages, quoi. Oui. Et on avait un notes QA, on appelait ça. Et le notes QA, en fait, ça va être plein de notes, un peu de manière relativement organisée pour dire t'as besoin de faire ça, un truc très spécifique, hein, un besoin ponctuel de création de données, par exemple, pour faire tes tests. Tu vas faire un petit tuto, un petit step by step de comment t'y prendre, ou même une vidéo, hein, si t'as le temps, avec un chapitrage par exemple. Vous y prenez comment?
On suit encore ta page, si ça peut te faire plaisir.
Oui.
Et avec Adama, on a un tableau d'amélioration continue.
Ouais.
Où dès qu'on a une idée ou on a un manque, on le met dans la page. Et comme ça, quand on a un peu de temps, on revient sur cette page, on se demande de quel tuto on avait besoin. Mmh. On reprend cette page et on se fait notre tuto. Ça peut être un step par step écrit ou une vidéo. Selon si on a eu besoin de quelqu'un pour nous expliquer, ça va souvent être une vidéo. Si on s'est débrouillé, on va faire un step par step un tableau.
Ça, c'est au cours d'un événement particulier que vous regardez ce tableau, ou pas, du daily
Chaque week-end, ouais. Pardon.
Ah, vous travaillez le week-end, c'est magnifique. Ça, c'est l'esprit Zenity. Ah,
chaque semaine, on a des points hebdo, weekly report. Et du coup, durant ce point, on regarde qu'est-ce qui est en cours, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui a été fait.
Ah, c'est quoi vos sujets en ce moment, par exemple, d'amélioration continue?
C'est souvent pour des tutos sur le paramétrage dans le bac ou de la création de jeux de données. Mmh. Ou si on apprend à faire quelque chose sur un outil, par exemple sur Charles, je viens de penser à quelque chose qu'on nous a montré récemment et sur lequel il faudrait qu'on fasse un tuto.
Très bien. Toi, Saosan, comment tu t'y prends dans ta mission? Je crois que tu es un peu plus autonome, c'est ça? Tu es toute seule en termes de QA sur ton équipe?
Pas toute seule, on est deux.
Vous êtes deux?
On est une équipe de QA, mais sur ce projet-là, on est deux personnes.
Mmh. Et du coup, tu as ça en tête de documenter un peu toutes tes activités
Sur cette mission-là, non. Mais avant, on faisait de la documentation par projet sur Confluence. Et ce qu'on faisait par train, on a un lead QA et une grande équipe QA. Du coup, vu qu'on était plus ou moins des testeurs transverses sur tout le train, on faisait une présentation à tous les testeurs. On préparait une présentation bien documentée, bien expliquée à toutes les personnes du train, les testeurs plutôt QA du train, où on leur expliquait ce processus que nous, on sait faire ou nous, on maîtrise pour partager la connaissance et on le mettait sur Confluence. Et comme ça, si les personnes avaient des questions sur ça ou quelque chose qui n'est pas clair dans notre documentation, on le remontait tout de suite, comme ça, on le corrige.
Et du coup, pour vous, ça vous paraît important de documenter ce que vous faites ?
Oui, carrément.
Ouais.
Ça nous fait gagner beaucoup de temps. C'est important pour la traçabilité.
Tout à fait. Et du coup, lors de vos précédentes expériences dans le milieu des jeux d'argent, quelle était la place des documentations ? Je parle par exemple des notes de livraison, des PV de recettes, tout ce qu'on entend par là. À quel point vous étiez rigoureux là-dessus sur la création de ces documents ?
Alors, pour dire vrai, lors de ma mission, c'était beaucoup plus une équipe transverse qui s'en occupait avec le lead QA. Nous, on s'occupait des PV de recettes, mais comme c'était des MEP de 2 semaines, il n'était pas assez costaud, le PV. Et donc, on l'envoyait sous forme de mail. Et c'est vrai qu'on stockait, mais en fait, il n'y avait pas vraiment une page Confluence dédiée pour ça. Mmh. Et du coup, tout ce qui était planning de livraison, on avait un release manager qui s'en occupait. Même si on faisait des points hebdo chaque semaine pour nous présenter ce qui allait partir en prod, c'était beaucoup plus lui qui s'en chargeait. Donc la QA n'était pas vraiment impliquée.
C'est-à-dire que, imaginons que pendant votre recette, vous aviez des réserves. Mm-hmm. Je prends un exemple bateau. Vous aviez une feature que vous aviez prévu de tester, seulement vis-à-vis de l'aller-retour, par exemple, de build avec l'équipe de développement, vous n'avez pas eu le temps de tester cette feature, mais le métier insiste pour que ça soit quand même mis en prod. Et du coup, c'est là où la note de livraison elle est super importante, parce que là, dans la partie réserve, on va pouvoir dire que nous, on n'a pas pu tester cette feature-là, mais que du coup, on a eu la directive de quand même mettre en prod. Et c'est très important en tant que QA consultant de pouvoir nous faire certifier, ouais. documenter qu'on met nos réserves, comme ça ne peut pas nous retomber dessus.
Oui.
Et donc vous n'aviez pas de note de livraison comme ça ?
Non.
D'accord.
Je pense qu'on faisait pour ça des points go-no-go et c'est le lead QA qui s'assurait à transmettre l'information. Nous, on nous posait les questions, on donnait nos avis et c'est le lead QA qui documentait tout ça et qui le transmettait au métier.
D'accord.
C'était oui, plus son rôle sur les points go-no-go.
Nous, pour les bugs critiques, on en parlait en daily. Au bout d'un mois, il y avait même les clients en daily, donc on leur disait directement. Donc quand c'était très critique, en fait, on décalait les livraisons. Parce que comme c'était des features entières, on pouvait pas livrer une partie et pas une autre. Et ensuite, on faisait des rapports, effectivement, run par run, il me semble. Pour certains streams, on faisait run par run. Quand on livre, on faisait un autre rapport avec nos réserves. Et ensuite, on avait un go-no-go avec les clients. Là, on leur redisait nos réserves, ils nous disaient les leurs parce qu'ils avaient refait une phase d'acceptance. Et si ça passait ces deuxièmes étapes, ça allait chez encore une autre phase de test. Donc beaucoup de documentation tout le long et sur plusieurs équipes.
Et ça, c'était à travers quel logiciel ? Vous utilisez certainement X-Ray pour le PV de recette ?
Je crois que le PV de recette, on le faisait nous-mêmes. On utilisait X-Ray, etc. Pour, X-Ray, déjà, ça arrivait un peu tard dans notre mission.
Ouais.
On était sur Jira.
Sur RefereTest peut-être ? Non. Vous étiez sur quoi ?
Jira.
Jira ? Pour la gestion des tests sans X-Ray ?
Ouais.
Excel peut-être ?
Comment ?
Non les gars, vraiment on était sur Jira. C'était magique. C'était magique.
Allez, explique-nous là.
Je pense que si celui qui a créé Jira voyait ça, il changerait de métier. C'était assez compliqué.
Moi je suis curieux vraiment, je veux savoir comment vous faisiez.
Franchement, je ne saurais même plus te dire exactement, mais on prenait des tests, on les faisait passer dans un état. Puis on les refaisait passer dans l'état, genre terminé, on les faisait passer dans un état.
Vous aviez des tickets test.
Ouais. Non, c'était pas test.
Ah ouais.
C'était un autre ticket, mais du coup, dont je me rappelle plus. Un ticket. Okay. Tu les faisais passer dans un état, et après, tu les refaisais passer en terminé. Et le fait d'avoir fait cette transition, ça les doublait.
Oula.
Il y avait une automation.
Et après, tu les prenais et tu leur mettais une étiquette pour dire cela, c'est pour tel, tel projet.
Ouais.
Et du coup, vous faisiez vos PV de recettes avec Jira.
Non, donc on servait Jira pour sortir tout ce qui est PV, tout ce qui est dashboard, tout ce qui est...
diagramme.
Voilà, ouais. Nous aussi. Et après, on mettait ça sur, sur des Word ou sur les mails à chaque fin de run. Mmh.
Ou des PPT, voilà. Ouais. Ça dépend de...
Ouais.
Ok. Et vos réunions go-no-go, qui c'est qui était présent?
Nous, il y avait la première équipe de testeurs du client, les testeurs de chez nous, et la deuxième équipe du testeur du client. Ceux qui faisaient l'acceptance, c'est ceux qui allaient refaire la recette derrière. Après que nous, on ait déjà fait une première recette. J'ai demandé hyper longtemps qui est les devs aussi.
Mm-hmm. Nous, il y avait le lead dev, l'équipe de testeurs qui en fait les tests, le scrum, PO, et le lead dev aussi, et les métiers.
Un représentant de chaque.
Ouais.
Et quelle était aujourd'hui la... Si on se pose, quelle était vraiment l'ampleur, l'impact de la parole QA sur le go-no-go? Est-ce que vraiment, une fois, vous avez réussi à dire non, cette version, je la sens pas, je vous déconseille de la mettre en prod, et on vous a écouté?
Ah bah oui, quand on avait des bugs quand même assez critiques, surtout sur ce qu'on appelait la GSMV, c'est la gestion des comptes multivecteurs. Mmh. Et du coup, ça, c'était la compta, c'était vraiment... important de prendre en compte les avis de la QA là-dessus.
Ouais, bah c'est bien ça. Je pense que ça va faire plaisir à pas mal de QA qui nous écoutent, qui ont l'impression que leur parole n'a pas de poids.
Ouais.
Venez dans le jeu d'argent, on vous écoute.
Nous, de toute façon, tant que c'était pas un minimum bon, en fait, on livrait pas.
Ouais, vous preniez zéro risque.
Si, mais des petits trucs, quoi. On en parlait en daily et... À moins que tout le monde signe pour nous dire que c'est pas grave. En fait, on a annoncé juste que ça repartait sur un nouveau run, quoi.
Mmh. Ouais, normalement, il y avait un minimum de bugs à avoir. Mmh. Pas de bloquant, pas de majeur, sauf si tout le monde dit que c'est pas grave. Et les mineurs, c'est pas grave, on peut partir avec les mineurs. Mmh. Mais s'il y a des majeurs et une partie veut partir en prod et une autre non, c'est là que les discussions commencent.
En fait, je pense que c'est une caractéristique des missions qui impliquent de l'argent, c'est que tu vois très bien la différence entre un bug critique majeur et un bug avec lequel tu peux partir.
Ouais. Il faut souligner qu'on avait une lead PO assez rigoureuse, donc elle était très attentive là-dessus, et elle n'aimait pas du tout avoir de bug en prod, donc même les majeurs, il fallait vraiment en discuter pour vraiment donner le go.
Okay.
Mais une fois, nous, sur un pari, on est parti avec un bug en prod parce que ça a été découvert, je pense, 3-4 jours avant la MEP. Et pourquoi on est parti avec ce bug-là en prod? Ça s'affichait, ça impactait certains téléphones, pas tous les téléphones. Mmh. Et la communication a été déjà faite aux clients. Du coup, le jour du lancement a été déjà annoncé au grand public. Du coup, on ne pouvait pas revenir en arrière. Et on est parti en prod avec ça. Mais le service client, il était au courant de tout ça. S'il a un appel concernant ça et ça et ça, on le sait. Et il y avait une communication sur ce problème-là, sur ces types de téléphones.
Ouais, une autre raison aussi qui peut nous mener à partir en prod avec un bug, c'est si le bug n'a pas été introduit lors de la dernière version qui vient d'être qualifiée. Mmh. Si on se rend compte que ce n'est pas une régression et que le bug était là sur une version antérieure, on peut partir en prod. Si c'était un vrai problème, on aurait eu des retours clients a priori.
Ouais. Oui.
Déjà, vous connaissez certainement les 7 principes de test de l'ISTQB. Je vais les rappeler. Hein. Alors le premier, tester. Prouve la présence de défauts, mais pas leur absence. Les tests exhaustifs sont impossibles. C'est le deuxième.
Ça, c'est mon préféré.
Tester tôt fait gagner du temps et de l'argent. Ça, c'est le troisième. Les défauts ont tendance à s'agglomérer ensemble. Donc, quand on va tester une feature et qu'on trouve un bug, bah, a priori, on risque d'en trouver d'autres. Attention au paradoxe du pesticide. À tout le temps tester les mêmes chemins, Eh ben, on va moins en moins trouver de bugs, mais ça ne veut pas dire que d'autres bugs ne se trouvent pas dans d'autres parties de l'application qui ne sont pas testées. Tester dépend du contexte. Donc, toujours adapter sa méthode de test, ses processus de test au contexte. Hein. Certains contextes sont plus propices, par exemple, aux tests de performance. Alors que d'autres, il va falloir s'acharner plutôt sur les tests fonctionnels. L'illusion d'absence de défauts. Voilà, donc c'est pas parce qu'on vient de faire sa campagne de tests, qu'on a passé tous ces tests, que ces tests sont ouverts, qu'il n'y a pas de défaut dans l'application. Voilà. Ça, c'est les 7 principes du test. C'est le niveau fondation de l'ISTQB. Parmi ces 7 principes, est-ce qu'il y en a un qui résonne en vous? Alors, ce que j'entends par là, c'est, par exemple, dans la vie de tous les jours, il y a peut-être un principe qui vous paraît évident et que vous arrivez à décliner même dans votre quotidien.
En fait, je t'ai parlé de... Les tests ne sont pas exhaustifs parce que c'est celui qu'on a le plus souvent besoin de répéter en mission à des non-testeurs. Par exemple, je te disais tout à l'heure pour les combinaisons gagnantes, je leur ai écrit ça plein de fois, quoi. Mais celui que je pense préférer, c'est celui ça prouve l'existence de défauts, mais pas l'absence de défauts. Je pense que c'est le plus, celui qui me parle le plus.
Et toi, Sassane?
Moi, c'est plus tester plus tôt.
Tester tôt.
Faut tester tôt. Il faut pas tout laisser à la fin. Que tout.
C'est ça. Plus on teste tôt, plus on gagne du temps, plus on économise de l'argent. Et du coup, impliquer le QA le plus tôt possible dans le processus de développement.
C'est ça. Faut tester en même temps que le développeur, il est en train de développer. Parce que si tu laisses à la fin, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de pression. Tout le monde veut que tout soit prêt à une date précise alors que le testeur a commencé en dernier et ça peut entraîner beaucoup de défauts.
Et dans vos missions, est-ce que vous êtes impliqué dans le processus de rédaction des US par exemple et des critères d'acceptation?
Première mission, oui. Un peu de BA, business analyst, donc rédaction. Assister le PO, mais aussi il n'est pas interdit de faire des propositions au PO lorsqu'on fait certains tests et que avec le dev on se rend compte que c'est quand même complexe comme parcours par exemple, donc de faire quelques propositions sur le design bien sur le parcours au PO.
Et toi, c'est ça?
Ouais, dans ma première mission, oui. On faisait même des propositions au PO quand on trouvait un parcours pas clair pour le client. Du coup, on faisait des propositions d'amélioration pour les critères d'acceptance si on trouve que c'est pas trop clair. Si c'est trop long, on pouvait proposer de découper l'US. Du coup, on faisait beaucoup de... On était vraiment intégrés dans la rédaction des US. Même avant le début du projet, quand on nous a présenté les maquettes, ils ont demandé l'avis de la QA sur le projet. Est-ce que vous trouvez que c'est clair? Comme ça, avant de, s'il y a des changements à faire sur les maquettes, ils les font vraiment très tôt.
Ça, j'ai vraiment une anecdote là-dessus. C'était ma première mission et le premier projet. Et donc, je ne savais pas encore bien délimiter le périmètre du QA. Et on arrive en démo, donc le client, les devs, les QA. Et j'étais venue avec une liste de ça, c'est pas très logique dans les specs. Et puis ça serait mieux si c'est comme ça. Et puis c'est pas normal que là il y ait une musique et que là il n'y ait pas de musique. Et du coup, le client a dit ouais, effectivement, c'est vrai. Donc on va changer tout ça. Et les devs, en fait, ils avaient fini.
Ils t'ont détesté allègrement.
Ils m'ont détesté. Ouais, et c'était vraiment le premier jour. Et ils me l'ont dit bah voilà, t'es arrivé, on t'a tout de suite pas aimé, quoi. Ouais. Tu t'es prise pour la PO, la business et le client en même temps.
Je pense qu'on passe tous par là au début. Ouais.
Moi, je pensais que c'était vraiment le rôle de la QA. Ah. Et puis après, ils m'ont dit, non mais vraiment, les prochaines démos, ils m'ont clairement dit, Fariel, si tu pouvais ne pas parler, ça serait bien. Du coup, j'arrête. Dans cette mission, on épaule souvent le PO sur la rédaction des US parce qu'il les fait surtout souvent dans la hâte. Et du coup, parfois, c'est trop gros ou parfois, c'est pas assez détaillé. Donc, on le relance. On lui a dit qu'on pouvait l'aider sur ça.
Je peux me permettre juste de te couper. C'est intéressant, c'est par rapport au découpage des user stories. C'est bien de rappeler qu'une user story dans l'agilité, elle doit être smart. Est-ce que ça vous parle, ça?
Ouais, mais c'est pas du tout le cas dans...
Pas du
tout. Oui. C'est très difficile et en même temps très important de rester vigilant à ce que les US et tous les tickets, en fait, soient smart. Donc smart, c'est un acronyme, hein, ça veut dire spécifique. Donc la demande doit être bien définie et compréhensible pour tous ceux qui la lisent. Le M après, c'est pour mesurable. Et c'est là où les critères d'acceptance rentrent en compte. Donc, la demande doit être facilement identifiable par l'équipe, afin que l'équipe sache concrètement comment faire pour qu'elle passe du to do à done. Donc, le A, c'est pour faisable. Donc, voilà, c'est achievable en anglais. Donc, la demande doit pouvoir être terminée par les équipes sans le moindre doute. L'équipe doit avoir toutes les compétences requises pour traiter la demande. R, c'est pour relevant. Donc, la demande doit être pertinente pour le produit et apporter de la valeur. Pourquoi créer cette user story si elle n'apporte rien au produit et aux utilisateurs? Et le T, c'est pour time-boxed. Donc, la demande doit être estimable dans le temps et estimable dans sa complexité. Elle ne doit pas comporter trop d'incertitudes aux yeux des développeurs. Donc ça, c'est important en tant que QA, de garder ça en tête et d'intervenir quand on a des US qui sont trop gros. C'est ce que tu faisais justement, Feriel, ce que tu expliquais avant que je te coupe. C'est redécouper peut-être les US avec le PO quand elles sont trop grosses.
Je vais juste expliquer pourquoi j'ai rigolé. Saoussan, tu parlais de tester tôt. Tu disais que c'était ton principe. Pas trop tôt. Il faut quand même s'assurer que le projet va avoir lieu. C'est pour ça que j'ai rigolé. C'est parce que, en fait, on a appris là récemment que le projet sur lequel Adama était sur un projet précis et moi j'étais sur un autre projet précis. Puis on se donne des coups de main en fait pour pas trop se disperser. Et Adama a testé très 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 tôt. C'est-à-dire que mon projet doit être mis en prod avant le sien. Et Adama a commencé à tester très tôt. Donc en fait, elle a fini avant le mien. Et puis après, on lui a dit, Adama, en fait, ton projet, il va pas être mis en prod alors qu'elle avait fini.
Ah ouais.
Okay. Je crois que ce qu'on entend par tester tôt, c'est tester tôt dans le processus.
Ouais, une fois que t'es au... Non, mais nous, c'était aussi dans le processus qu'Adama, justement, était... Elle a commencé à être vraiment dans les US, etc., au plus tôt possible. Du coup, on était hyper serein.
Là, par exemple, ça serait tester les spécifications, tu vois. Avant même qu'il y ait une ligne de code qui soit développée, eh ben, le testeur, il est déjà impliqué à relire.
Lors de la rédaction.
C'est ça qu'on entend par tester tôt, genre.
Ouais, ça, ok.
Mais ça, ton cas de figure fonctionnait ça. Ne pas tester trop tôt.
Ne pas tester trop tôt. On te rejoint aussi, du coup, là-dessus, parce qu'on essaye aussi de tester de manière informelle les specs.
Faire un peu de shift left.
Exactement, shift left.
Et toi, Dama, c'est quoi ton principe préféré?
Alors, moi, je dirais plus l'illusion d'absence de défaut, parce que j'ai tendance à stresser quand il n'y a pas de défaut. Donc, je ne suis pas sereine. Je me dis, ce n'est pas normal.
On a l'impression de ne pas faire notre travail, du coup.
Exactement, c'est ça. Donc, je vais aller chercher un peu plus loin, pousser les tests. Il faut que je trouve quelque chose.
Ouais, je comprends. Ouais. On a tous cette déformation.
C'est ça.
Et c'est là où on va commencer à reprendre les typos. Là, il manque un E, il y a une coquille. On va créer un D.
Alors que moi, vraiment, c'est mon plus grand bonheur, quoi. Quand il n'y a pas de défaut...
Ouais.
Je clôt tout ça et...
Bah, ce qui est bien, c'est qu'avec les métriques que nous sortent X-Ray, par exemple, même si on n'a pas trouvé de bug, on a le nombre de cas de tests qui a été exécuté. Donc rapidement, on peut avoir quand même une métrique qui prouve qu'on a travaillé. Ok, intéressant. Quelle est la place de l'automatisation dans les jeux d'argent? Parce que quand même, ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est que quand on va tester, par exemple, une nouvelle grille de prise de jeu... On va passer beaucoup de temps à vérifier plusieurs combinaisons, par exemple pour la reconnaissance d'images. Je ne sais pas si ça faisait partie de vos problématiques. Et on peut imaginer que c'est des choses à automatiser et qui sont plutôt pertinentes. Est-ce que vous aviez de l'automatisation en place?
C'était en place, en cours de mise en place.
Quel techno vous utilisiez?
Alors, on utilisait Karaté et Cucumber, je pense aussi. Parce qu'à un moment donné, je me rappelle qu'on s'est mis à rédiger du Gherkin sur les tickets qu'on avait en stock dans la bibliothèque de test. Et du coup, le projet, il était en place et il y avait déjà de premiers résultats assez fructueux. Et je trouve que l'automatisation a sa place dans les jeux en ligne parce qu'on a l'impression de tout le temps faire le même parcours. Donc, il y a différents types de paris, mais il faut tout le temps se connecter, choisir le pari. Donc en fait, c'est juste le pari qui diffère. Et du coup, ça a été bien de penser à automatiser ce genre de parcours pour faire gagner plus de temps aux testeurs.
Et est-ce que vous aviez réussi à respecter la pyramide des tests? Donc faire qu'il y ait plus de tests back, de tests front, par exemple?
Alors moi, je suis partie avant. Donc,
j'ai pas... Vous aviez combien de tests automatisés
Au début, je sais que pour tous les paris, on avait réussi quand même à rédiger le Gherkin et je pense 50%, je vais dire environ, à automatiser tout ce qui avait été rédigé.
Nous, en front, on n'a jamais réussi à mettre l'automatisation. Et pendant vraiment les 3 ans où je suis restée, c'était la grande question parce que du coup, hyper redondant et hyper long. Et on a essayé de temps en temps de faire des POC, mais en fait, il aurait fallu vraiment allouer une grande part de réflexion et de temps pour ça, on ne l'a pas pris. Et à chaque fois qu'on le prenait, on ne trouvait pas comment automatiser.
Ok. Est-ce que vous avez un mot de la fin pour ce sujet-là sur les jeux d'argent ?
Alors, ne pas être addictif et ne pas se forcer à jouer quand on n'a aucun rallye.
Ah, donc de la prévention de la part d'Adama.
Exactement.
Ouais, pour les joueurs et pour les testeurs.
Mais d'ailleurs, j'ai ma petite théorie. J'ai l'impression que tout le monde qui travaille dans ce milieu ne joue pas.
Oui.
Ouais. Moi, j'ai essayé une fois.
Je confirme.
Ouais. Nous, en plus, c'est interdit pour les internes d'avoir un compte.
Exactement. Ah ouais. On avait des comptes de prod, de test. Donc, ils mettaient de l'argent quand on en avait besoin.
Ah non, mais, justement, moi, on m'a souvent dit « Ah, tu travailles là, tu dois avoir des tips pour gagner. » Et la réponse, c'était pas du tout. Sinon, il y aurait eu une clause pour qu'on puisse pas jouer. Parce que justement, tout était fait pour que ce soit hyper, hyper random. Et du coup, ils n'avaient pas cette clause de dire « tu ne peux pas jouer ».
Tu ne peux pas influencer. En conclusion, le secteur des jeux d'argent en ligne présente des spécificités qui soulignent l'importance cruciale du test pour garantir la qualité et la sécurité des plateformes de jeux. Les aspects combinatoires des jeux exigent une approche rigoureuse des tests pour s'assurer de la cohérence et de l'intégrité des différentes combinaisons possibles. En négligeant les tests adéquats, les conséquences peuvent être désastreuses, tant pour les joueurs que pour les entreprises, avec des pertes financières significatives et une détérioration de la réputation. Il est donc crucial de tester les jeux d'argent dès les premières étapes de développement, afin de vérifier leur facilité de compréhension. Les tests statiques, par exemple en utilisant des utilisateurs cibles, permettent d'identifier les éventuelles difficultés et d'améliorer l'expérience utilisateur avant même le lancement du jeu. Pour s'assurer d'une compatibilité optimale, il est essentiel que les testeurs disposent d'un large éventail de dispositifs et d'outils de paiement. Cela leur permet de couvrir les scénarios d'utilisation potentiels et de garantir une expérience cohérente sur les différentes plateformes. Une autre observation que nous avons faite, importante, est que les testeurs doivent posséder une expertise complète maîtrisant à la fois les aspects front-end et back-end du développement, ainsi que des compétences en analyse métier. Cette polyvalence leur permet de collaborer efficacement avec les product owners, par exemple, en fournissant des informations précieuses pour l'amélioration continue du développement. Pour rester compétent dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, qui est en constante évolution, il est primordial que les testeurs se forment régulièrement et restent à jour sur les nouvelles tendances, les évolutions réglementaires et les avancées technologiques dans l'industrie des jeux d'argent en ligne. En somme, en intégrant ces éléments clés dans les processus de test, les testeurs QA jouent un rôle essentiel pour assurer la qualité et la sécurité. Leur expertise, combinée aux efforts de collaboration avec les équipes de développement et les autres parties prenantes, contribue à créer des expériences de jeu exceptionnelles pour les utilisateurs tout en protégeant les intérêts des entreprises du secteur des jeux d'argent. Voilà. Merci d'avoir participé, merci d'avoir partagé votre expérience.
Merci à toi pour l'invitation.
Rien, on peut finir en ASMR si vous voulez.
Ouais. Merci quand même.
J'espère que vous avez passé un bon moment.
Super bien.
Super. Et j'espère que les auditeurs aussi ont passé un bon moment, qu'ils ont appris 2-3 trucs au détour de notre conversation.
J'espère aussi.
Voilà, il ne me reste plus qu'à vous donner rendez-vous dans un mois pour le prochain épisode. Et voilà.
Non, c'était agréable de partager ce moment avec Saoussan Adama.
Et Karim.
Pareillement.
Et Karim. Ouais, c'était un plaisir pour moi aussi. Merci, au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Bye. Bye.